Vous êtes sur RTL.
RTL. 22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Je suis ravie de passer avec vous cette dernière soirée de notre semaine ensemble. Parmi vous, certains vont bientôt partir en vacances. Les vacances, c'est le suspens de nos activités habituelles, c'est un temps de divertissement, mais c'est aussi un moment de retour aux origines. Nous retrouvons notre terre, une maison liée à notre enfance, notre famille, des amis de toujours et des sensations familières, des couleurs, des saveurs, des parfums, un sourire. En retrouvant nos origines, c'est nous-mêmes que nous retrouvons, car tous ces éléments sensoriels activent en nous une mémoire involontaire. Des souvenirs oubliés nous arrivent, presque par surprise, et produisent du bien-être, du bonheur, de l'apaisement. Parler peut aussi permettre cela. Quand on parle, on est ramené chez soi. Je suis Sabine Calégari, psychanalyste, et jusqu'à minuit, je suis à votre écoute sur RTL, au 09 69 39 10 11. Au standard, Sarah et Colin vous accueillent et vous guident. Si vous préférez nous écrire, pour réagir, témoigner, c'est par SMS au 64 900 code RTL ou sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Sous le regard attentif de Marc Bisset, nous pouvons commencer. Bonsoir Julien.
Allô, bonsoir. J'espère que vous allez bien.
Oui, je vais très bien, je vous remercie, vous-même.
Ça va, merci.
Voilà, on ouvre les dialogues avec vous. On ouvre les dialogues avec vous ce soir. Vous êtes le premier à nous parler.
Oui.
Donc, que souhaitiez-vous nous dire, Julien?
En fait, je vous appelais parce que honnêtement, je suis pas habitué d'écouter votre émission, mais par hasard, par moment, j'écoute et je me laisse aller à écouter les histoires des gens.
Oui.
En fait, hier soir, j'écoutais l'histoire, les trois histoires qui ont été racontées. En fait.
Oui, on a parlé d'amour.
Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi je ne demanderais pas un avis extérieur sur ma propre histoire à moi.
Oui.
Donc, mon histoire à moi, en fait, c'est que ça fait quelques années que je vis à l'étranger.
Oui.
Je suis parti de la France, j'étais marié. Allait bien dans ma vie. J'ai vécu donc 8 ans, 8 belles années parfaites, 8 années de mariage qui se sont très bien passées.
Oui, vous êtes partis ensemble Vous êtes partis ensemble?
Oui, on est partis ensemble. Oui. Donc, on a fait notre petite vie et fin 2019, en fait, mon grand-père est décédé.
Oui.
Et la question de revenir en France pour les obsèques, pour être avec ma famille et tout ça s'est posé. Et en fait, à ce moment-là, avec ma femme, on avait beaucoup de projets, on n'avait vraiment pas beaucoup de temps. Et au final, elle m'a un petit peu empêché de rentrer en France le temps d'aller aux obsèques de mon grand-père.
Oui.
Et je pense que je l'ai mal vécu, très mal vécu, parce que à la suite de ça, j'ai commencé à me renfermer sur moi, à me détourner un petit peu d'elle, en fait.
Qu'est-ce que vous entendez, Julien, par elle m'a empêché?
Elle m'a pas donné l'accord dans le fond pour que je puisse rentrer en France, même si j'avais pas forcément besoin de son accord, mais j'aurais aimé qu'elle me dise pas,
vous soutienne.
Ouais, c'est ça, voilà. J'aurais plutôt aimé qu'elle me soutienne.
Vous avez beaucoup d'heures. Vous aviez beaucoup d'heures de transport ou d'avion pour rentrer?
7 heures. Non, c'était pas vraiment. Mais il fallait absolument que cette semaine-là, je sois là et j'ai pas pu me libérer. Et puis j'ai pas eu son soutien, donc ça a été une suite de choses qui ont fait que j'ai pas pu aller aux obsèques de mon grand-père.
Oui.
Et à la suite de ça, donc je me suis renfermé sur moi. Et de là, notre couple a complètement changé de comment dire, de dynamique,
de climat, oui.
Et il s'est trouvé que peu de temps après, j'ai rencontré une fille.
Alors, je vous pose une question au passage, Julien, parce que vous semblez dire qu'il y avait un avant, un après la mort de votre grand-père. Il y avait autre chose qui vous a éloigné de votre femme, ou est-ce que c'est vraiment ça qui a eu valeur de cassure?
Ah non, Non, tout était, tout marchait bien, on s'entendait bien, tout allait vraiment bien, et je sais pas pourquoi le fait que j'aille pas aux obsèques de mon grand-père a déclenché une suite de choses qui ont complètement changé la dynamique de notre couple, en fait, et qui a fait que je suis parti, j'ai laissé tomber quelques mois après, je suis parti, j'ai laissé la maison, je l'ai laissé, et on a divorcé à la suite de ça.
Vous commencez à dire que vous aviez fait une rencontre. Est-ce que c'est ça qui a provoqué la rupture ?
Indirectement, oui. Je pense que si je n'avais pas rencontré cette personne, je ne pense pas que je serais parti. J'aurais peut-être cherché je me serais peut-être attardé un peu plus à vouloir arranger les choses plutôt que de juste simplement partir, en fait.
Oui.
Et donc, j'ai rencontré cette personne et peu de temps après, on s'est mis en couple ensemble.
Oui. Donc, il s'avère que j'ai toujours énormément... à l'étranger, hein, là où vous étiez.
Oui, je suis encore au même endroit et je suis pas revenu en France. Donc, il s'avère que j'ai énormément de doutes par rapport à notre relation, à ma situation dans cette histoire-là.
Là, ça fait combien de temps avec votre nouvelle compagne ?
Ça fait un
D'accord.
an qu'on est ensemble.
Oui.
Donc, c'est ça. Il s'est passé pas mal de choses qui ont déclenché des doutes chez moi. Et au fur et à mesure que les mois passent, ça s'arrange pas, en fait. J'essaye, moi, de mon côté, de pas me poser de questions, de juste... Parce que je me dis qu'il y a une différence de culture, donc peut-être qu'on ne s'attend pas aux mêmes choses vis-à-vis du couple. Mais
elle n'est pas française, choses... votre nouvelle compagne ?
Non, oui. Elle n'est pas française.
D'accord.
Et donc je me pose énormément de questions et énormément de doutes. Il y a énormément de disputes, énormément de choses qui se sont dites. Et je sais pas comment avancer dans cette histoire-là sans me poser de questions. Et j'en suis rendu au point où je me demande si c'est moi qui suis fou ou si...
Ou s'il y a des faits, ou s'il y a une réalité derrière vos doutes, c'est ça ?
C'est ça. Il s'est passé des choses suite à mes doutes. Moi, alors c'est pas forcément bien, mais j'ai cherché à voir de moi-même ce qui se passait. Par exemple, y a un soir où ma conjointe était partie dans un bar-restaurant avec des amis, etc.
Oui.
Et moi, cette soirée-là, j'avais pas forcément envie d'y aller parce qu'on s'était discuté avant. J'avais pas vraiment pas envie de voir du monde, en fait.
Au départ, vous deviez l'accompagner ?
Non, c'est ça. J'ai pas voulu y aller de moi-même. À la base, elle aurait aimé que j'y aille, mais finalement, on s'est discuté. Donc, je suis resté à la maison et elle est allée à sa soirée.
Oui.
Et puis, à un moment dans la soirée, je me suis dit, tiens, si j'allais voir ce qui se passe. Et il s'avère que je l'ai vu avec d'autres hommes, assez proches d'autres hommes.
Oui.
Et ça a été jusqu'au point où, à la fin de la soirée, moi, j'attendais sur le parking et je l'ai vu dans sa voiture avec un autre homme. Donc, il s'est rien passé. A priori, il s'est rien passé. Moi, j'ai été la voir. J'ai été lui demander ce qu'elle faisait.
Oui.
Et là, elle était incapable de me répondre. Elle n'était pas dans son état normal.
C'est-à-dire, pas dans son état normal ? C'est parce qu'elle était surprise, interdite, ou parce qu'elle avait pris des substances ou de l'alcool ?
C'est ça. Elle était. Il y avait de l'alcool. Et il serait avéré qu'après, possiblement quelqu'un aurait mis quelque chose dans son verre, mais ça, j'ai aucun moyen de le savoir, de le vérifier, j'ai aucun. Mais c'est quand je l'ai vu à l'extérieur, ça se voyait dans son visage qu'elle n'était pas dans son état normal. Donc, c'est pour ça que, après ça, moi, je suis parti, j'ai dit, c'est bon, c'est fini, je ne veux plus la voir, c'est terminé, j'abandonne.
Vous viviez ensemble à cette époque-là ?
Comment ?
Vous viviez ensemble ?
Oui. On habite ensemble.
D'accord.
Mais moi, ce soir-là, pour moi, c'était fini. Je prenais mes affaires et je partais. Je voulais pas repartir dans des doutes et dans des histoires compliquées. Mais sauf qu'une heure après, elle m'a appelé, elle m'a demandé de venir la chercher. Elle était dans un endroit, elle s'était perdue, elle savait pas où elle était. C'était assez étrange. Et moi, au lieu de... Parce que quand j'y repense, je me dis, j'aurais peut-être dû abandonner, j'aurais peut-être dû ne pas répondre et la laisser se débrouiller. Mais ce soir-là, à la place de ça, j'y suis allé. Je l'ai ramené, on a passé la nuit ensemble. Et le lendemain, on a passé une journée complètement normale, de couple normal, comme si c'était rien passé et parfaitement heureux.
Est-ce que ça veut dire que vous lui avez laissé, comme on dit, le bénéfice du doute? C'était comme dans la voiture, il n'y avait rien de flagrant. Est-ce que ça veut dire, pour cette fois, vous lui avez laissé le bénéfice du doute? Vous avez considéré comme possible ce qu'elle vous disait, qu'elle a été droguée? Et est-ce que vous étiez dans cet esprit-là, à ce moment-là?
En fait, avant qu'elle soit dans la voiture avec cet homme-là, sur la terrasse du restaurant, je voyais ce qui se passait et elle était proche, notamment d'un homme qu'elle connaissait pas, mais vraiment très proche. C'était pas une relation, c'était même pas un ami, c'était un inconnu. Et oui, pour un inconnu, je trouve que les limites étaient déjà dépassées. Moi, mes limites à moi, en tout cas, étaient dépassées. Et après ça, donc il y a eu la voiture. On s'est expliqué longuement et d'un côté, il y a effectivement, je lui donne le bénéfice du doute parce que je l'ai vu clairement qu'elle n'était pas dans son état normal. Mmh. Et en plus, c'est moi qui n'ai pas voulu aller à cette soirée-là. Donc c'est de ma faute. Si j'étais pas là, c'était complètement de ma faute.
Sauf que vous aviez des doutes avant, Julien. Vous disiez que les doutes que vous aviez avant qui vous ont incité à aller vérifier au bar, c'était des doutes sur sa fidélité.
Oui.
Et comment vous conceviez ces doutes-là? Est-ce que vous pensiez plutôt qu'elle pouvait avoir une liaison? Ou est-ce que vous pensiez plutôt qu'elle pouvait être dans une position de séductrice, de manière plus générale, y compris avec des inconnus? De quoi étaient faits vos doutes au début?
Je pense, qu'elle est très, très séductrice. Et je pense que c'est aussi en lien avec mon début de relation avec elle. Elle m'a séduite... très facilement, c'est une très belle femme. Quand on rentre dans un endroit, tous les hommes regardent elle. Mmh. Elle est très grande, c'est vraiment une très belle femme. Et je pense que les débuts de notre relation, et j'aurais jamais pensé pouvoir attirer cette femme-là, en fait.
Oui.
Donc là, j'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, elle va aller dans un endroit sans moi et elle va flirter, il va se passer des choses. Et ce soir-là, j'ai voulu me le prouver à moi-même et malheureusement, j'ai un peu vu ce que j'avais peur de voir, en fait.
Oui. Et pourtant, donc vous avez ce premier soir quand vous l'avez, cette première nuit quand vous l'avez retrouvée, là vous lui aviez laissé le bénéfice du doute, vous avez passé la nuit ensemble et le lendemain, donc vous avez repris le cours de votre vie, en apparence en tout cas.
Ben le lendemain matin, en fait, on a eu une longue discussion parce que le soir même, la soirée s'est finie vraiment très tard, donc je l'ai laissé dormir. Et le lendemain matin, par contre, on a eu une longue discussion et d'un côté, elle était désolée, mais d'un côté, elle était en colère après moi parce que j'étais pas venu avec elle parce qu'on s'était disputé toute la journée, que c'était en partie de ma faute de pas avoir accepté de venir dans cet endroit-là. Et effectivement, je me suis dit, c'est vrai, c'est de ma faute, j'étais pas là, donc peut-être qu'il s'est passé ça parce que j'étais pas là.
Oui, là, c'est une vision assez curieuse des responsabilités quand même, parce que vous étiez, bon, il arrive dans un couple que les deux personnes soient pas ensemble, que l'un n'accompagne pas l'autre pour toutes sortes de raisons, ça laisse la responsabilité entière de ce qu'elle fait quand vous n'êtes pas là.
C'est ça que je me dis, c'est que je sais pas à quel point je peux me dire que quand je suis pas là et que tout va bien, elle va pas faire exactement la même chose, en fait. Je sais pas comment me placer vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce comportement-là qui est arrivé à d'autres reprises dans des moments un peu plus légers, avec moins de gravité, on va dire.
Oui.
Mais c'est des petits gestes qui ont été placés, qui, moi, me dérangent. qui me font me poser la question de savoir si ça sera toujours comme ça et que au final c'est une séductrice, elle aime peut-être être séduite, elle aime peut-être séduire.
Là, ça a l'air d'être un peu plus que ça, parce que bon, le côté séductrice, parfois ça fait partie du côté séduction du rapport entre le masculin et le féminin, le charme circule, il y a voilà, chacun joue du charme, mais là c'est un peu plus que ça, si vous dites qu'il y avait des gestes avec d'autres hommes.
Ça, c'était des gestes légers, légers. C'était vraiment pas majeur. C'est encore là, ça peut être dans l'ambiance d'une soirée et se laisser un peu aller. Mais c'était vraiment pas des gestes méchants. Donc c'est pour ça que je suis entre deux positions. Je me dis effectivement, c'est pas si grave que ça. Mais d'un autre côté, pour moi, je me dis ouais, mais si je suis pas là, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc là, c'était il y a combien de temps, cette soirée-là?
Cette soirée-là, c'était il y a deux mois. Et depuis, parce que moi, en fait, je suis beaucoup en déplacement et je m'absente énormément. Donc ça veut dire que les soirs de la semaine, en général, elle est toute seule. Et elle n'avait jamais connu ce genre de situation où elle était en couple avec quelqu'un qui n'était pas là les soirs et... Donc là, depuis deux mois, depuis justement la discussion qu'on a eue, la longue discussion qu'on a eue après cette soirée-là, elle n'est jamais ressortie, elle n'a jamais pu rien faire. Donc, elle a changé de ce côté-là, donc je ne sais pas...
Ça, c'est ce qu'elle dit ou c'est ce que vous constatez? Est-ce que vous avez moins de doutes depuis?
Moins de doutes, je dirais pas que j'ai moins de doutes. Je vois ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait comme effort, parce qu'on s'appelle les soirs, on se parle tout le temps. Il y a vraiment pas de, j'ai aucun doute. Je sais que depuis deux mois, je sais pas si elle a eu peur ou je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais qu'elle est pas ressortie. Mais mes doutes à moi, par contre,
oui.
J'arrive pas à les effacer comme ça. J'arrive pas à ce qu'elle est. En plus, elle travaille avec beaucoup d'hommes. Elle travaille dans un milieu très masculin. Donc, j'ai mes doutes. Je me dis que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des hommes autour d'elle et je serai jamais suffisant pour la garder. En fait, c'est ça ma conclusion. C'est ça.
Mais si on repose votre question, parce que bon, qu'il y ait des hommes autour d'elle, il peut toujours y avoir des hommes autour d'elle. Si elle est pas ouverte et pas consentante, il se passera rien. Donc, en fait, ce que vous posez, c'est la question de la confiance dans votre couple. Vous demandez si vous pouvez faire confiance à votre conjointe pour être dans l'optique de fidélité dans laquelle vous semblez vous trouver vous. Vous semblez dire que vous voulez un couple où la fidélité soit une des valeurs partagées. C'est bien ça, ce que vous dites. Oui. Et en fait, vous vous demandez si vous pouvez lui faire confiance et si elle est en affinité avec vous là-dessus. Parce que moi, je crois que vous posez une question d'éthique dans le couple. Je crois qu'il ne s'agit pas de savoir si elle a été droguée, si les autres hommes lui tournent autour, si c'est parce que vous n'êtes pas là, si c'est parce que vous êtes au loin. Tout ça, ce sont les facteurs exogènes. Je pense que le facteur important, c'est de savoir est-ce que elle, dans sa vision du couple, elle est dans la même éthique de fidélité que vous. Et je crois que c'est presque la seule question à lui poser, c'est de lui dire, de lui demander, de dire que pour vous, dans ce à quoi vous avez assisté, il y a déjà une limite qui a été franchie. Donc vous, ce que vous avez besoin de savoir, c'est si vous êtes d'accord sur la notion de limite. Parce que ce qui est embêtant dans ce qu'elle vous dit, bon, je prends un terme un peu familier, c'est qu'au moment où vous lui en avez parlé, elle semble pas prendre sa responsabilité. Elle dit c'est parce que tu n'étais pas là, c'est parce que tu m'as laissé aller seule, c'est parce que j'étais droguée. À aucun moment elle dit quelque chose qui aurait pu être rassurant, c'est j'ai franchi une limite, je me suis laissée emporter, ça va pas se reproduire. Ça, c'est le discours de quelqu'un qui prend ses responsabilités, vous voyez.
Ça, après, elle l'a reconnu, par contre, un peu plus tard, quelques jours après, elle l'a reconnu, elle l'a dit d'elle-même que c'était une bêtise et qu'il aurait jamais dû se passer ça et qu'elle a été trop loin, elle l'a reconnu d'elle-même, ça, par contre.
Et est-ce que vous avez pu parler de la question de la fidélité ensemble? Est-ce que pour elle, elle est d'accord sur le fait que votre relation est fondée là-dessus?
On en a parlé à plusieurs reprises. Elle connaît mon point de vue là-dessus. Et quand on en parle, elle me dit la même chose. Elle me dit non, je te tromperai pas, il se passera rien. Et mais par contre, ça dénote avec ce que moi j'ai déjà vu.
Oui.
Donc je me demande si la limite est juste pas au même endroit. Et
exactement. C'est bien la question. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent sur cette question de la fidélité, bon, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a qu'une morale possible et qu'une éthique possible. La question, c'est de dire que pour qu'un couple soit heureux, il s'agit que les deux soient alignés sur la même éthique et la même vision des choses, quelle qu'elle soit. On n'a pas à prôner la fidélité, l'infidélité, ni la séduction ou pas la séduction. Simplement, pour que deux personnes puissent être heureuses, en confiance, dans une certaine sécurité affective, il faut que la vision soit partagée et, comme vous le dites à l'instant, qu'on mette les limites à peu près au même endroit. Donc, elle, ce qu'elle semble vous dire, d'après ce que vous rapportez là, c'est qu'elle est d'accord sur le fait qu'elle n'est pas censée avoir une liaison ou un acte sexuel avec un autre homme. En revanche, elle considère que la limite est peut-être plus éloignée que de votre côté à vous. Elle semble s'autoriser des attitudes de séduction et peut-être une certaine proximité de gestes avec d'autres hommes, ne serait-ce que leur compagnie, parce qu'elle se trouve dans un bar entourée d'autres hommes. Rien que ça, vous pouvez, vous, peut-être considérer que c'est une limite.
Je considère que c'est une limite, ouais. Mais après, je me dis que c'est peut-être une différence de culture aussi. Il y a la mentalité est peut-être pas la même. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte. Donc, je sais pas en fait. Je sais pas si sa limite à elle est beaucoup plus loin que la mienne.
Je crois que c'est ça les vrais sujets. Je crois que c'est ça les vrais sujets entre vous. Oui. Et peut-être, vous voyez, je suppose que vous allez être appelé à en reparler, parce qu'à un moment donné, il va se produire une situation qui risque de raviver vos doutes. Je pense que le vrai sujet, c'est celui-là. Et si votre conjointe vous emmène sur un terrain du type écoute, c'est difficile, tu n'es pas là, ou écoute, moi j'aime pas être toute seule, j'ai pas l'habitude de sortir seule, je pense que c'est important que vous l'arrêtiez avec une certaine fermeté, en disant que moi, si je t'entends parler comme ça, ça augmente mes doutes, parce que j'en déduis que tu te sens pas responsable de ton comportement et c'est pas de nature à me donner confiance.
D'accord.
Ça me semble important que vous, parce que il me semble que vous l'aimez, vous êtes un homme amoureux, donc vous avez aussi envie de croire à votre histoire, mais peut-être que vous pouvez avoir eu tendance à vous laisser embarquer vers une culpabilité que vous n'aviez pas apportée. Vous voyez, par exemple, on a un message sur la page Facebook de Cléo qui dit « Julien, vous n'y êtes pour rien, votre absence ne justifie en rien le comportement de votre amie. Si elle ne tient pas en votre absence, c'est sa fidélité qui est douteuse. » Donc, je pense que déjà, lui barrer dans le discours la possibilité de décharger sa responsabilité sur vous, à mon avis, c'est une première chose à faire, et de voir si elle accepte que les choses soient recentrées comme ça, en disant « Attends, je vais pas te laisser parler des facteurs exogènes, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est où toi, tu mets la limite de la fidélité, et qu'est-ce que toi, tu considères comme quelque chose de déjà un début de trahison, ou quelque chose de normal ?»
Oui. Depuis cette soirée-là, elle n'est pas ressortie, c'est rien passé. Donc c'est pour ça que je me dis qu'elle était peut-être pas vraiment consciente de ce qu'elle faisait à ce moment-là, et je sais qu'elle l'a regretté. Donc
je crois que ce que va vous apprendre l'avenir, c'est que est-ce que pour l'instant elle se tient tranquille parce qu'elle a peur de vous perdre? Ou est-ce qu'elle se tient tranquille parce que elle a l'intime conviction que c'est comme ça que votre relation doit se vivre? Vous voyez, c'est pas la même chose.
Oui, il faudrait que j'aborde le sujet avec elle.
Oui, je crois que vous allez, c'est peut-être délicat de le faire comme ça, mais vous allez forcément en avoir l'occasion, parce qu'à un moment donné, il va y avoir une situation où elle sera, par exemple, frustrée, triste du fait que vous ne soyez pas avec elle, et vous verrez bien comment les choses se présentent à ce moment-là.
Oui.
J'avais une question, c'est que vos premiers doutes, vous sembliez les avoir en relation avec les choses, la manière dont les choses se sont passées quand vous vous êtes rencontrés tout au début. Quand vous avez été en contact avec elle, donc quand vous vous êtes rencontrés, elle avait eu une attitude rapidement séductrice envers vous ?
Oui, quand même. Il y a eu on s'est dit des choses quasiment à nos premières soirées où on était dans des soirées ensemble et la porte était clairement ouverte. C'était assez évident pour moi.
Et pour vous, est-ce que par rapport à votre sensibilité, vous avez trouvé que c'était un peu rapide ?
Non, sur le moment, non, parce que ça me plaisait d'un côté, mais maintenant, avec le recul, je me dis que ça a été vraiment facile pour moi de la séduire et de... Oui. Donc je sais pas, quand on en parle de ça, elle me dit que non, c'est parce que elle était sous mon charme et que ça se passait vraiment bien, mais d'un autre côté, je me dis que ça a vraiment été facile.
Et vous, qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui, c'est-à-dire dans votre relation, à part ces incidents, est-ce que vous sentez que vous vous sentez aimé, vous sentez qu'il y a beaucoup d'amour de sa part, qu'effectivement elle est sous votre charme et qu'elle vous regarde avec les yeux de chimène, comme on dit? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ressentez? Parce que c'est une expérience émotionnelle aussi. On sent si l'autre nous aime et est attiré. Est-ce que ça correspond à ce que vous ressentez?
Oui, quand on est ensemble, il y a vraiment justement les yeux, le regard. Je pense que c'est son regard qui m'a retenu le plus. C'est en partie pour ça que je suis encore avec elle aujourd'hui, parce que oui. Quand on est ensemble, elle a un regard qui me... Et hier, il y avait une histoire où il a parlé de magie et de...
Oui, bah,
cette magie-là, quand on est ensemble, elle est clairement là. Quand on est ensemble, c'est vraiment magique. C'est vraiment magique, en fait. Et le temps, il pourrait se passer n'importe quoi autour de nous qu'on s'en rendrait même pas compte. Et tellement on est dans notre monde, en fait.
Ça, c'est quelque chose de précieux dans un couple. Et je ne crois pas que vous puissiez vous tromper là-dessus. Si vous ressentez de la magie maintenant, il est probable qu'elle ait été là au début. Donc, à travers ce que vous dites là, je ne vois pas de raison de penser qu'elle ait été envers vous dans une séduction un peu superficielle. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Enfin, ce n'est pas l'impression que ça donne.
Non, je pense pas, parce que le regard, justement, je suis très observateur et je sais que mon regard à moi, là, ce que je ressens quand je la regarde dans les yeux, j'ai quasiment l'impression qu'elle ressent la même chose, en fait. Mon regard peut pas se tromper là-dessus. Je
pense oui,
pas,
non, ça c'est pas du c'est mental, pas... c'est une expérience émotionnelle.
Il y a une façon de regarder qui est unique, en fait.
Et
je pense pas pouvoir me tromper. Je pense surtout pas que quelqu'un puisse faire semblant à ce point-là, en fait. Je peux pas croire ça.
Et puis il y a une intimité dans un couple et on sent très bien ce qui se passe dans ces moments-là. Et là, le semblant, comme vous dites, est difficilement possible. Enfin, pas sur un an.
C'est ça. Et même sur un an, il y a eu les confinements et tout ça. Et on en a parlé souvent. On s'est rendu compte que quand on est ensemble, quand on est que tous les deux, vraiment la relation est parfaite. C'est une chimie, ça se fait tout seul. Il y a vraiment aucune. On a plus de mal à être avec du monde parce qu'on a l'impression qu'on est un peu séparés, un peu distraits. On n'arrive pas à se concentrer l'un sur l'autre, alors que la plupart des couples, et on en parlait encore hier. La plupart des couples vont avoir besoin de monde autour d'eux pour se rapprocher. Et nous, c'est complètement l'inverse.
Vous avez un fonctionnement assez.
Quand on est ensemble.
Vous avez un fonctionnement assez fusionnel tous les deux.
Oui, oui.
Et Julien, une autre question. Enfin, vous évoquiez ça. Si vous essayez d'analyser la situation, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de votre côté, au sens où vous auriez peu confiance en vous, vous trouvez cette femme très belle, vous semblez dire que vous êtes presque surpris d'avoir pu lui plaire. Est-ce que vous pensez que ce qui pourrait compliquer la situation, c'est que vous ayez un manque de confiance en vous et que vous ayez la croyance quelque part qu'une femme aussi belle ne peut pas durablement être, vous mettre en première position, en position d'exception dans sa vie ?
Oui, je pense que j'ai un problème là-dessus personnel, un problème de confiance en moi, c'est assez clair. J'ai quand même eu pas mal de temps pour y réfléchir.
Oui.
Et c'est vrai que j'ai tendance à paniquer pour le moindre petit truc qui va se passer ou le moindre message qu'elle va recevoir, le moindre homme qui va se rapprocher d'elle. Je vais tout de suite me comparer à lui. Il me dit, ouais, il est plus beau que moi, il est plus gentil que moi, il est plus drôle que moi.
Julien, vous savez, la comparaison avec l'autre homme, c'est vraiment le ressort de la jalousie. Donc je pense qu'il s'agit d'être vigilant par rapport à ça, de ne pas vous laisser embarquer dans cette spirale-là. Parce que vous vous demandiez si votre conjointe partage la même éthique du couple que vous, ça c'est vraiment une question saine et légitime. Que vous lui demandiez de préciser quelles sont ses limites, ça aussi c'est légitime. Qu'éventuellement, c'est aussi une autre façon de dire les choses, que vous lui demandiez par amour de ne pas être ambigu, ça aussi vous pouvez lui demander clairement, c'est-à-dire lui dire que pour vous l'ambiguïté c'est très douloureux et que vous lui demandez si elle vous aime, que par amour pour vous elle fasse ça et qu'elle ne soit pas ambiguë. Ça jusque-là, c'est des choses tout à fait saines, normales. En revanche, si vous vous laissez entraîner dans une spirale où la question c'est plus seulement vous et elle, mais en fait vous comparez aux autres hommes, là ça rentre dans quelque chose de potentiellement dangereux et passionnel, parce que ça c'est vraiment le ressort de la jalousie. La jalousie, c'est plus une histoire entre vous et une femme, c'est une histoire entre vous et d'autres hommes que, fantasmatiquement, vous pourriez penser plus puissant que vous, plus viril que vous. Vous voyez, c'est là qu'est le ressort de la jalousie. Donc là, ça me semble important, parce que quand on se connaît et qu'on est en conscience, on peut diriger nos pensées dans une certaine mesure, de faire attention de ne pas partir dans ces voies-là.
Oui, je comprends.
Vous voyez, il y a Stéphane qui dit « Je pense que vous devriez lui faire confiance même si elle est très belle, c'est pas pour ça qu'elle ira voir ailleurs. » Je pense qu'il a raison, Stéphane. C'est pas la question qu'elle soit très belle et que vous, éventuellement, vous vous demandiez pourquoi une femme si belle reste avec vous. C'est vraiment la question de l'éthique partagée.
Allô ?
Oui, oui.
Ah.
Oui.
Je comprends, c'est vrai que je devrais arrêter de me comparer aux autres et me dire que si elle est avec moi, c'est pour les bonnes raisons et qu'il n'y a rien entre nous, en fait. Tant qu'il ne se passe rien, c'est qu'il n'y a rien.
Je crois que si elle est avec vous, c'est que c'est une question entre vous et elle, et pas entre vous et d'autres hommes, et vous et des facteurs exogènes. À partir du moment où vous êtes à deux, vous formez un couple, en plus vous aimez ce côté fusionnel, c'est juste entre vous et elle. Et si entre vous et elle, c'est clair et que vous êtes alignés sur la même conduite à tenir, il peut se passer n'importe quoi, ça ne changera rien.
Oui, je comprends.
Oui. Donc bon, je crois que ça va être... Là, c'est le titre de l'émission « Parlons-nous ». Je pense que c'est vrai aussi pour vous et elle. Je crois que là, il s'agit vraiment de vous parler, de mettre carte sur table, de ne pas hésiter à lui demander, de ne pas être ambigu en disant que vous en avez besoin pour lui faire confiance et de voir si vous pouvez vous accorder là-dessus.
D'accord. Je vais essayer de communiquer plus correctement avec elle.
Mais je crois que vous saurez faire, parce que si vous avez cette connexion, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas l'étendre à plus de dialogue. Voilà, quand on a une intimité avec quelqu'un, parler, ça s'intègre très bien, cette intimité-là.
Oui. Non, on n'a jamais eu de problème à communiquer. Vraiment, on parle vraiment bien.
Alors Julien, voilà, il faut tenir votre inconscient bien court pour qu'il ne parte pas vers la jalousie et la comparaison et bien vous concentrer sur la qualité de la relation à deux.
Je vais essayer.
N'hésitez pas à nous rappeler, Julien, si vous sentez que vous dérapez, que c'est difficile. On est là pour vous parler, vous écouter et peut-être reconsidérer les choses si elles bougent.
Parfait. Ben, merci beaucoup, Sabine.
Avec plaisir, Julien. Bonne soirée. Bel été à vous.
Sabine Calégari sur RTL. Parlons-nous. 22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant. C'est Parlons-nous, l'émission qui vous donne la parole en direct pour toutes vos questions de vie. Et ce soir, il est beaucoup question d'amour. Alors si vous souhaitez nous communiquer votre expérience sur ce sujet ou un autre, ou témoigner, ou soutenir un auditeur, ou apporter votre propre particularité, c'est au 09 69 39 10 11 ou par SMS 64 900 code RTL. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Eh bien, je vous écoute Jean-Marc. De quoi souhaitez-vous nous parler ?
Ben, je ne sais pas, j'ai un problème depuis 15 jours.
Oui.
Je me suis mis à tromper ma femme.
Oui, depuis 15 jours.
Oui.
Il s'est passé quelque chose de particulier il y a 15 jours ?
Ben oui, je me promenais dans ma ville.
Oui.
Et puis j'ai vu une fille, c'était trop tard, et puis j'ai vu une fille, et puis on est partis ensemble.
Quand vous dites une fille sur le trottoir, vous voulez dire une professionnelle ?
Non, non, je pense qu'elle attendait son quart et puis après, je lui ai dit, je vais la déposer quelque part.
Oui.
Après, depuis, c'est parti, on est partis ensemble.
Oui. Et là, votre relation a commencé tout de suite ou vous avez fait connaissance, vous êtes revus ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, ça a commencé un peu tout de suite et puis après, on s'est revus et puis là, elle veut me revoir encore demain.
Oui. Et comment vous vous êtes senti avec elle la première fois ?
Ben, je me sentais bien.
Oui. Et après, ça a été compliqué pour vous ? Vous...
Ben oui, parce que je veux pas le savoir à ma femme.
Oui.
Depuis un moment, là, d'habitude, je ne sortais pas le soir. Maintenant, je me mets à sortir le soir quand je veux.
Et ça, c'est récent ? Ça date où c'était déjà le cas avant que vous sortiez ?
Non, c'est récent.
Oui. Il s'est passé quelque chose dans votre couple pour que vous sortiez plus le soir ou que votre femme peut-être soit moins attentive à vous ? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire ?
Oui. Depuis un moment, elle ne peut plus avoir de relation sexuelle avec moi.
Oui. Quand vous dites depuis un moment, c'est combien de temps à peu près ?
Ouais, ça fait bien 2-3 ans.
Ah, 2-3 ans ?
Oui.
Et... Il s'est passé quelque chose de particulier il y a 2-3 ans qui vous aurait éloigné ou...
Bah, je sais pas, depuis du jour au lendemain, elle a dit qu'elle ne veut plus.
Ça fait combien de temps que vous êtes mariés ?
Bah, on n'est pas mariés, on vit comme en concubinage.
Oui, d'accord. Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble ?
Oui, ça fait 23 ans.
Ah oui, en effet. Bah oui.
Ouais.
Donc en fait, avant ces 2-3 ans, il y a eu 20 ans ensemble. Est-ce que vous diriez que c'est 20 ans d'harmonie ?
Oui, un peu, oui.
Et pendant ces 20 années-là, la vie sexuelle se passait bien avec elle ? Ou il y a eu aussi,
ouais,
il y avait
pas,
aussi...
Pas souvent, mais quand même assez régulièrement.
Oui. C'est curieux que soudainement, elle n'ait plus voulu.
Bah, je crois qu'elle a un problème. C'est parce que du jour au lendemain, comme maintenant elle va tomber en retraite, comment elle a, du jour au lendemain, elle a changé ?
Et vous attribuez ça au fait qu'elle, elle était en retraite, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Comment ça se passait avant ? Elle aimait son travail ? Elle n'avait pas envie de, s'arrêter ?
Oui, c'est ça, oui.
Alors, est-ce que vous pensez qu'elle était... Est-ce qu'elle était déprimée, par exemple ?
Ben, je pense, oui. Je pense un peu, oui. Même encore maintenant, hein.
Ah. Et avant, comment était votre femme ? Est-ce que c'était une femme joyeuse ? Est-ce que...
Oui, oui. Quand j'ai connu, on rigolait bien ensemble, on s'amusait ensemble, on faisait des soirées ensemble. Et elle a un problème, c'est que plus ça va, mieux, moins elle veut voir le monde.
Oui, ça peut être un signe de déprime, effectivement. Elle se replie sur elle, vous voulez dire ?
Oui, c'est ça, oui.
Et ça, vous dites, ça, 2-3 ans, c'est le moment où elle s'est trouvée en retraite, vous dites.
C'est ça, oui.
Et vous en avez parlé tous les deux ? Est-ce qu'elle vous a dit que c'était compliqué pour elle d'arrêter son travail ou...
J'ai l'impression que depuis qu'elle a arrêté son travail, elle ne sent plus utile à rien.
Et ça, est-ce que ça a été brutal ou est-ce que ça a été progressif quand elle s'est arrêtée?
Ben non, parce qu'elle a eu des problèmes, elle a eu des problèmes cardiaques et puis elle a arrêté progressivement, quoi. Elle s'est arrêtée souvent, quoi.
Ah, vous voulez dire qu'elle a été en retraite anticipée du fait d'un problème de santé? Est-ce que c'est ça?
Oui, voilà. Ouais, c'est ça.
Ah, d'accord.
Mais depuis, j'ai l'impression qu'elle sent plus, elle est plus motivée comme avant.
Et vous pensez que elle se sent mal dans votre couple aussi? Est-ce qu'elle en a parlé?
Elle parle pas beaucoup non plus. Hein.
Avant, puis vous parliez plus.
Et puis moi, c'est pareil. Maintenant, quand j'ai quelque chose, je garde pour moi.
Donc, vous vous êtes éloigné d'une certaine manière.
Oui.
Et vous avez l'impression que l'état de votre femme est stable ou est-ce que vous avez l'impression que c'est de plus en plus difficile pour elle?
Je trouve que c'est un peu plus difficile. Il y a des jours où ça va aller et puis il y a des jours où elle a des bas.
Et elle, qu'est-ce qu'il y a dans sa vie maintenant? De quoi est faite sa vie? Comment elle s'occupe? Quels sont ses goûts? Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui l'intéresse?
Elle aime bien le jardinage, elle aime bien tricoter, les trucs comme ça, quoi.
Et quand elle a arrêté les relations sexuelles avec vous, donc vous dites il y a 2-3 ans, est-ce que vous avez pu lui parler? Est-ce que vous pensez qu'elle est consciente que pour un mari, c'est difficile ce type de privation?
Elle m'a dit maintenant que je suis vieille.
Pardon, pas mari, excusez-moi, vous m'avez dit que vous étiez conjoint. Oui.
Moi, je considère comme si c'est pas parce qu'on n'est pas marié que je me suis. C'est pas ma femme. Hein.
Oui.
Mais elle m'a dit, maintenant que je suis vieille, il faudrait qu'il y aille voir une jeune.
Il faut arrêter de...
Il faudrait qu'il y aille voir une jeune, qu'elle m'a dit.
Ah, c'est elle-même qui vous a dit ça?
Ah oui.
Et quand elle vous a dit ça, vous pensez que c'était une forme d'accord entre vous sur le mode, oui, d'une forme d'arrangement? C'est moi, je ne veux plus avoir de relations sexuelles, donc je te rends ta liberté pour que tu ailles voir quelqu'un d'autre? Ou vous pensez que c'était une parole beaucoup plus désespérée sur le mode, c'est terrible, je me sens vieille, tu as qu'à aller voir une jeune, comme on peut dire quand on est, oui, quand on a une mauvaise image de soi, qu'on se sent fragile finalement?
Oui, mais non, mais moi j'ai dit carrément, je sais pas si je peux dire à l'antenne, j'ai dit mais arrête tes conneries, quoi.
Oui, donc pour vous, dans votre regard à vous, elle n'était pas vieille.
Ah non, mais même, elle est plus âgée que moi, mais elle ne sera jamais vieille. Hein.
Vous la regardez avec une forme d'amour, non?
Oui, mais je l'aime toujours. Hein.
Oui.
Puis je l'aimerai toujours.
Et est-ce qu'elle est consciente, vous croyez, que quel que soit son regard sur elle-même, c'est très difficile de te sentir vieille, c'est une expérience très douloureuse, mais est-ce qu'elle est consciente que le fait qu'elle se sente comme ça vous met, vous, dans une position douloureuse aussi, parce que vous, vous la voyez pas vieille, vous la désirez, vous l'aimez? Est-ce qu'elle en parle de ça? Est-ce qu'elle se rend compte que c'est...
Oui, un peu, parce que des fois j'ai dit, j'essaye de se faire plaisir, même si je veux la sortir. Elle veut pas.
Oui, là, elle a une sorte de fixité, en fait, dans sa position. C'est qu'il y a quelque chose... Bon, on va pas parler de termes de dépression, parce que pour ça, il faut faire un examen soigneux, enfin, vraiment des entretiens cliniques sérieux. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la déprime. Comme si elle avait goût à rien et qu'elle se replie. Et que finalement, elle se sent bien avec les plantes, le jardin, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Là où, au fond, elle se sent pas à risque, elle se sent pas en difficulté par rapport à son âge.
Non, mais c'est ça. Puis en plus, elle est têtue, hein, parce que vous lui dites quelque chose, une fois qu'elle a décidé quelque chose, c'est comme ça, c'est pas autrement.
Oui. Donc oui, c'est ça, elle est dans cette inertie et à la fois vous devez être triste pour elle parce que vous voyez bien que ça va pas, mais d'un autre côté, elle vous laisse pas tellement de possibilités de l'aider.
Non, c'est vrai, c'est pas évident. Hein.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre couple avec votre conjointe?
Moi, j'aimerais bien rester avec elle jusqu'à la fin de mes jours. Hein.
Oui.
le plus tard possible.
Alors, est-ce qu'au fond, enfin, j'entends ce que vous dites de la femme que vous avez rencontrée, mais est-ce que c'est ça la question, ou est-ce que la question c'est celle de votre couple qui est dans une forme de crise et que vous souhaiteriez sortir de l'ornière?
Oui, moi je voudrais bien sortir de l'ornière. Je la retrouver comme elle était avant.
Oui, ben oui. Et la femme que vous avez rencontrée, quelle est votre idée par rapport à elle? Est-ce que vous êtes dans l'idée de poursuivre une liaison? Vous savez pas, comment vous vous situez par rapport à ça?
Je sais pas, c'est vrai, c'est malheureux à dire. Vous savez comment, je sais pas comment vous dire parce que j'ose pas.
Je vous écoute, enfin, dites Jean-Marc.
C'est vrai qu'on trouve un peu de plaisir à aller ailleurs, quoi.
Ben, je ne sais pas si c'est aller ailleurs ou si c'est simplement trouver de plaisir parce qu'un être humain a besoin d'une vie sexuelle. Enfin, en tout cas, vous en avez besoin.
Oui.
Est-ce que vous pensez que c'est ça le ressort principal? Est-ce que vous pensez que ce qui est important pour vous, c'est que ça soit une autre femme, éventuellement une nouvelle rencontre? Ou est-ce que vous pensez que ce qui est important pour vous, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous puissiez avoir une vie sexuelle parce que ça vous est nécessaire?
Oui, moi je pense que ça serait plus la vie sexuelle.
Oui. Est-ce que c'est une manière de dire que... Bon, c'est toujours difficile de dire ça d'un être humain, parce que celle que vous avez rencontrée, c'est aussi un être humain, mais est-ce que vous pensez que c'est pas tellement le lien avec elle en tant que tel qui est important, mais c'est la fonction que ça a dans votre vie, qui est de vous apporter, des moments de vie sexuelle?
Oui. Il y a un peu, comme on dit, il y a un peu le plaisir de jouer un peu avec son couple.
Oui, qu'est-ce que vous entendez par là, le plaisir de jouer avec son couple?
Je vais pas arriver à le dire.
Oui.
Vous savez, se faire surprendre, un truc comme ça, quoi.
Pardon, excusez-moi, je vous ai pas entendu.
Se faire surprendre, un truc comme ça, un peu. Jouer un peu avec le risque.
Ah, vous pensez... Alors, si jamais... Oui, je n'étais pas sûre de ce que vous disiez. Est-ce que pour vous, c'était la surprise d'une nouvelle rencontre ou est-ce que c'est le risque d'être surprise par votre conjointe?
Voilà, ouais, c'est un peu ça, ouais.
Alors, à votre avis, pourquoi vous jouez avec ce risque-là? Est-ce que vous pensez que vous jouez avec ce risque parce que c'est chez vous Est-ce que c'est une forme de fantasme ou une manière de mettre de l'intensité? Ou est-ce que vous pensez que inconsciemment, ou consciemment peut-être, vous voulez lui passer le message que vous ne pouvez pas vous passer de vie sexuelle et qu'elle doit prendre conscience qu'il faut que des choses bougent? Est-ce que vous pensez que ce goût du risque, c'est plutôt une alerte que vous voulez lui adresser? Ou c'est une forme de fantasme ou d'adrénaline?
C'est un peu les deux.
Oui. Il me semble que votre souhait principal, c'est que votre couple aille mieux.
Oui, c'est ça, oui.
Là, je lis par exemple un message pour vous. Quelqu'un dit, je regarde, c'est une signature, non. Donc quelqu'un dit, c'est un problème qui arrive parfois, on peut se retirer du monde, se sentir inutile au moment de la retraite. C'est à vous, monsieur, d'essayer de renouer le dialogue, mais vous n'êtes pas fautif, vous avez envie de vivre, ne culpabilisez pas de cette aventure, courage.
Ah oui.
Et donc là, cette personne vous soutient en disant que... Enfin, en fait, cette personne, je trouve qu'intelligemment, comprend les deux. En fait, se déplace dans la logique de votre femme en disant qu'elle vit une certaine souffrance morale et se déplace aussi dans la vôtre en disant ne culpabilisez pas d'avoir envie de vivre, là, donc sur le plan sexuel et amoureux. Cet homme vous soutient dans l'idée de renouer le dialogue avec votre couple. Je pense que c'est vraiment ça qui est l'enjeu.
Oui, mais et par contre là, bientôt à la fin du mois, d'août, on va déménager. Oui. Mais apparemment, elle est contente de partir en Bretagne parce qu'on va déménager.
Alors peut-être que le renouveau peut l'aider, mais moi je pense important, Jean-Marc, je pense que de laisser de côté dans votre tête la question de l'aventure, parce que je pense que si vous cédez à votre tentation d'être surpris, ça peut beaucoup compliquer les choses et ça risque d'accroître le sentiment de dépréciation de votre femme. Je pense que l'urgence, c'est que vous puissiez lui dire à quel point vous tenez à votre couple, que pour vous, c'est la priorité de votre vie, de dire exactement ce que vous m'avez dit, que vous souhaitez la retrouver comme avant, et de lui dire, il faut qu'on fasse quelque chose pour ça. Alors, lui dire, soit tu penses que le déménagement, ça va être résolutoire, soit peut-être elle a besoin de se faire aider, parce qu'il y a quand même pas mal de signes de déprime. Peut-être lui proposer de l'accompagner chez un thérapeute pour qu'elle puisse retrouver sa joie de vivre et que vous puissiez vous retrouver tous les deux.
Oui, et vous savez, quand elle a rendez-vous, parce qu'elle a rendez-vous chez le docteur, à chaque fois, je dis, tu veux que j'aille avec toi?
Oui.
Et quand elle arrive chez le docteur, il dit, ça va? Bah, il dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais elle veut pas y expliquer les problèmes qu'elle a.
Je comprends. Mais oui, c'est ce que vous dites, c'est qu'il y a une certaine obstination, une certaine fermeture chez elle, donc pour l'instant, c'est compliqué.
Et bien souvent, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle me reparle de la mort de son père, parce qu'elle a été retirée chez ses parents.
Ah, alors attendez, ça Jean-Marc, ça va être un vrai sujet. Donc on va reprendre notre échange, mais en attendant, on va marquer une courte pause, le temps des informations. Surtout, vous ne quittez pas, nous nous retrouvons dans un instant et on reprend cette question-là. Tout à l'heure.
22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Nous sommes heureux de vous accueillir si vous nous rejoignez maintenant. C'est Parlons-nous, l'émission qui reçoit en direct vos questions et ouvre des voies avec vous pour essayer de les résoudre. Alors quel qu'en soit le thème, n'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. Et nous retrouvons Jean-Marc avec qui nous étions en plein échange. Vous êtes là Jean-Marc ?
Oui.
Jean-Marc, donc pour ceux qui nous rejoignent, donc je vais reprendre ce que vous nous avez confié. Donc, vous nous avez dit que vous êtes avec votre conjointe depuis 23 ans, que vous avez connu dans votre couple depuis 2-3 ans un moment difficile quand votre femme s'est trouvée à la retraite. Vous avez dit qu'elle se sentait inutile, qu'elle se repliait sur elle-même, qu'elle ne consentait plus aux relations sexuelles avec vous. Et dans ce contexte, vous avez rencontré, il y a une quinzaine de jours, une femme donc, que vous avez rencontrée dans la rue, avec laquelle vous avez commencé, je ne sais pas si on peut appeler ça une liaison, en tout cas des moments amoureux. Et vous nous dites que tout en prenant du plaisir à ces moments-là, puisque vous étiez dans une privation sexuelle, votre priorité, c'est de sauver votre couple et, comme vous nous avez dit, de retrouver votre femme comme avant.
Oui, c'est ça, oui.
Voilà. Et à l'instant, donc, vous nous avez parlé donc, du projet de déménagement qui est imminent. Et quand on s'est interrompu, vous disiez que votre femme était en deuil, c'est ça?
Oui, parce qu'elle a perdu son père il y a longtemps. Et avant qu'elle perde son père, elle a été retirée de chez ses parents.
C'est-à-dire elle avait quel âge quand elle a perdu son père?
Elle avait 13 ans.
Elle avait, pardon?
13 ans.
13 ans, ah oui.
Ouais.
Et donc sa maman s'est retrouvée veuve et à ce moment-là, elle a été retirée de chez ses parents. Où l'a-t-on emmenée?
On l'a emmenée chez une nourrice.
Oui.
Et puis la nourrice, à 18 ans, elle a dit, maintenant que tu as 18 ans, tu te débrouilles, tu pars dans la rue, tu pars de là et puis tu te débrouilles.
Oui. Et là, comment s'est débrouillée votre femme, enfin celle qui allait devenir votre compagne?
Elle a réussi à trouver un foyer. Et elle avait, comme elle dit, quand je suis arrivé au foyer, j'avais 20 francs en poche. Et elle a réussi à se débrouiller comme ça, quoi. Elle a trouvé du travail. Après, elle a réussi à se débrouiller, quoi.
Oui.
Bien souvent, elle me répète. Enfin, je veux pas dire qu'elle rabâche, quoi. Mais elle répète toujours la même chose. Son père, ça lui manque.
Son père lui manque et. Ça, elle le disait depuis le début de votre rencontre? Elle dit ça chaque fois qu'elle se sent dans un moment de fragilité ou d'insécurité?
Depuis le début.
Oui. Et au cours de vos 20 années, oui, même 23 ans ensemble, est-ce que vous aviez déjà repéré qu'elle pouvait avoir une pente à la déprime ou que c'était...
Un petit peu, oui.
Oui. Donc, au fond, vous, votre idée, quand vous parlez du deuil de son père jeune et puis de ce qui s'est passé après, vous pensez qu'elle a gardé une certaine fragilité?
Oui, c'est ça, oui. Je pense.
Oui. Peut-être aussi que de cette période-là où elle était dans une certaine solitude, elle est sortie de sa famille, peut-être que elle s'est repliée sur elle et dans cette solitude-là, elle ne se confiait pas aux autres. Enfin, c'est peut-être là qu'elle a commencé à garder les choses pour elle et à être dans une sorte de fermeture quand ça ne va pas.
Mais par contre, vous savez, moi des fois, comme j'ai perdu ma mère il y a longtemps, ça va faire 18 ans, moi je ne parle pas beaucoup.
Oui.
Des fois elle me dit mais qu'est-ce que t'as? Je dis je pense à maman.
Oui.
Parle. Mais elle je dis parle aussi. Mais elle veut pas. Elle est encore pire que moi. Elle est plus renfermée.
Vous savez, Jean-Marc, en vous écoutant, d'abord je pense que comme vous le dites vous-même, que la fragilité de la fragilité, oui, il y a une faille ou une blessure chez votre femme qui ne date pas de la retraite, qui a plutôt été réactivée par la retraite, mais avec un terrain qui était déjà là. Je pense que puisque vous souhaitez rester avec elle jusqu'à la fin de votre vie, l'idée c'est qu'elle puisse se consolider pour que si éventuellement il y a d'autres épreuves, enfin, c'est pas ce qu'on vous souhaite mais ça peut toujours arriver, elle puisse les aborder sans se replier sur elle et sans vous laisser dans une solitude à la fois affective, sexuelle. Enfin, l'idée serait qu'elle puisse retrouver une certaine solidité. Ben, je me demande si le mieux, ce ne serait pas de lui proposer une thérapie à deux. Parce que j'ai le sentiment que là, si vous lui proposez une thérapie seule, peut-être que ce sera difficile pour elle d'entrer dans la parole.
Oui, je pense aussi. Oui.
En revanche, si vous
voulez dire, vous l'accompagnez.
Ben, oui, en fait, c'est peut-être pas seulement l'accompagner. Peut-être ce que vous pouvez lui dire, parce que là, on peut considérer que bon, vous n'allez pas employer des mots dramatiques vis-à-vis d'elle, mais votre couple est en crise. Bon, pas en crise d'amour, vous l'aimez et elle vous aime certainement, mais en crise au sens où chacun est dans sa solitude. Elle est dans sa solitude déprimée, avec une certaine dévalorisation d'elle, de son physique, de son âge. Et vous êtes dans une solitude affective, sexuelle. Donc il y a une forme de crise dans votre couple. Et je pense que vous pouvez lui dire que vous tenez à elle plus que tout, que la priorité de votre vie, c'est que votre couple retrouve sa dynamique, son bonheur, et que vous, ce que vous souhaitez, ce que vous attendez d'elle, c'est qu'elle accepte que vous alliez ensemble en thérapie pour que vous puissiez sortir de ce moment difficile et retrouver le bonheur que vous aviez ensemble.
Oui, je vous comprends, oui.
À mon avis, vous voyez, il y a plus de chances que ça fonctionne, parce que si vous lui dites « tu ne vas pas bien, tu es déprimé, il faut qu'on te soigne », à mon avis, vous allez rencontrer une résistance.
Ouais, comme vous dites, je vais tomber sur un mur, quoi.
C'est ça, exactement. Exactement. Tandis que si vous lui dites que vous l'aimez, que vous ne baisserez pas les bras, que vous voulez que votre couple retrouve la vie heureuse que vous aviez, là, c'est pas elle qui est malade. C'est vous qui avez un désir et vous lui demandez de faire ça pour vous. Vous savez, une femme, elle fera toujours quelque chose pour l'autre et parfois, ça sera plus difficile de le faire pour elle-même. Donc, si elle vous aime, elle peut consentir à votre projet de thérapie.
Ah ben, je vais essayer.
Je crois que ça vaut vraiment la peine. Et pour l'instant, je crois peut-être ne pas mélanger les deux choses. Bon, vous, pour l'instant, vous avez une forme d'oxygène sexuel. Enfin, il me semble que c'est comme ça que vous le décrivez à côté. C'est quelque chose qui... Enfin, c'est pas encore une liaison, au sens où c'est pas quelqu'un avec... pas une femme avec laquelle vous avez entretenu une relation affective ni une double vie. Je pense que pour l'instant, il vaut mieux laisser ça à part, en fait, dans votre esprit. Ne pas en parler à votre femme, non pas parce que je cultive le mensonge, mais parce que je pense que ça l'atteindrait et que ça irait contre votre souhait de remettre votre couple dans une dynamique commune.
Ah, mais tout père, j'ai pas envie d'y dire. Hein.
Oui, mais bon, je vous dis ça parce que comme vous évoquiez la tentation d'être surpris, je pense que là, il s'agit de faire attention parce que bon, ça peut être tentant l'adrénaline, ça peut être fantasmatique, mais là, je crois que ça irait vraiment contre votre désir à vous de revivre heureux avec votre femme.
Ouais, je vous comprends.
Mais... Oui. Donc, peut-être, bon, pouvez-vous faire ça, Jean-Marc, n'hésitez pas à nous redonner de vos nouvelles, nous dire si ça a pu prendre le chemin de la thérapie, si ça va mieux dans votre couple. Ça me semble une question vraiment essentielle pour vous.
Bah, je vous rappellerai.
Oui.
Il n'y a pas de problème.
Avec plaisir. Je vous souhaite beaucoup de courage parce que je crois qu'il vous faudra non pas, une forme de détermination. Non pas parce que votre femme ne vous aime pas, mais parce que là, elle est dans une forme d'inertie qui est liée à son état. Donc, je crois qu'il vous faudra peut-être un peu de persévérance.
Ouais, je vais essayer.
Oui. Alors, bon courage à vous, Jean-Marc.
Et je vous rappellerai, je pense tenir au courant.
Avec plaisir, n'hésitez pas.
Merci.
Bonne soirée à vous.
Sabine Calégari sur RTL. Parlons-nous.
Coucou Gaëtan Roussel, je me jette à ton cou. C'est un extrait de la compilation Les Artistes RTL 2021. 40 tubes réunis sur deux CD, la bande-son idéale pour votre été.
Jusqu'à minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant. Il est 23h15 et nous sommes ensemble trois quarts d'heure encore. C'est Parlons-nous, l'émission qui, en traitant la question de vie propre à chacun, fait ressortir des éclairages et des solutions pour tous. Alors n'hésitez pas, quelle que soit votre question ou votre témoignage, 09 69 39 10 11. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir Sabine, bonsoir à tous les auditeurs.
Voilà, les auditeurs vous écoutent en même temps que moi, donc de quoi souhaitez-vous nous parler ?
Excusez-moi si je suis un peu hésitante, j'ai un peu le trac.
Ah, vous inquiétez pas, vous verrez, dans deux minutes ce sera passé, vous oublierez qu'il y a les auditeurs qui nous écoutent et on sera juste en dialogue toutes les deux. Dites-moi les choses comme elles vous viennent.
J'ai déjà appelé il y a un peu plus d'un an.
Oui.
Pour le même sujet.
Oui.
Parce que ma maman était très malade, puis elle est décédée.
Ah.
Le 10 juin, ça fait un an.
Oui.
Et c'est vrai que je souhaitais parler du deuil.
Oui.
Et que peut-être, alors, je ne sais pas si le terme est heureux ou pas, que vous me serviez peut-être un peu de boussole.
Oui.
Si vous voyez ce que je veux dire dans...
Vous vous sentez désorientée ?
Pas vraiment, mais je me dis peut-être que je me suis un peu perdue, que je ne me rends pas compte. Alors après, je sais qu'il n'y a pas forcément de normalité, mais est-ce que dans mon processus de deuil,
oui.
Je suis, disons, sur un chemin qui est plutôt encourageant ?
Oui.
Ou est-ce que peut-être je me suis un peu perdue sans m'en rendre compte ou... Et puis après... On se pose des questions, je veux dire, c'était quelqu'un de très proche.
Oui.
Ça a été quelque chose de très dur. Je vivais avec elle. J'ai eu un parcours de vie particulier, assez, comment dire, dur, très
oui.
dur. Et c'est vrai que...
Vous aviez toujours vécu avec elle ou vous l'avez retrouvée récemment, enfin, au moment de sa maladie
avec elle.
Oui. D'accord.
Ouais.
Ah oui, donc c'était une relation très forte.
Oui, et même si j'essaie d'avoir des relations avec des hommes, enfin de... Voilà, j'ai vécu à temps partiel, si vous voulez.
Oui.
Avec certains, mais bon, et puis j'ai eu des problèmes de santé, et donc j'ai été quittée. Et là-dessus, ma maman est tombée très malade, et maladie des poumons incurable, une maladie rare. Dû à une autre maladie rare, on ne sait pas laquelle. Et donc,
ce qui signifie que vous avez certainement connu des moments d'incertitude et d'angoisse pendant la maladie de votre mère, si c'était quelque chose de rare, de peu connu.
Ben, disons qu'il n'y avait pas énormément d'informations à disposition. Elle s'est retrouvée aux urgences parce qu'elle était en détresse respiratoire.
Oui.
Et elle était en soins intensifs. C'était... ouais, ça a été très dur, hein, mais bon, c'est vrai que le problème, c'est que je n'ai pas eu l'occasion de parler en tête-à-tête à son docteur,
oui,
ou à un médecin, et avoir peut-être certaines explications qui m'auraient aidé à m'occuper d'elle, parce que j'étais son aidante.
Et vous avez l'impression que tout n'a pas été fait pour elle, ou que vous, vous n'auriez pas tout fait pour elle?
Ben, moi, j'ai un peu l'impression que j'aurais pu faire mieux. Et je culpabilise un petit peu. Et alors après, d'un côté, d'un point de vue rationnel, je me dis que non. Et puis, d'un point de vue émotionnel, je me dis que j'aurais pu faire mieux. Mais c'est vrai que physiquement, c'est extrêmement dur.
Oui.
Déjà, pour quelqu'un qui n'a pas de problème de santé, c'est dur. Et pour quelqu'un qui a des problèmes de santé, assumer, elle était alitée. Elle avait d'autres problèmes de descente d'organes, donc il y avait une chaise percée. Donc il y avait. J'étais un peu aide-soignante et infirmière.
Ça,
il y avait une machine à oxygène à gérer aussi, enfin tout un tas de choses.
Oh, c'est très lourd ce que vous avez vécu. Donc votre maman était à la maison, donc elle n'était pas tout le temps hospitalisée, c'est ça?
Non, elle a été deux fois hospitalisée, un mois, puis trois semaines, et une autre fois une semaine. Et puis, en fait, il n'y a pas eu vraiment de soins palliatifs à l'endroit où elle a pu être accueillie et profiter de soins palliatifs. Elle n'a pas pu profiter de ça. Et on lui a dit à cet endroit où aller, mais c'était trop cher.
Oui.
Parce qu'elle était à la retraite et elle avait 71 ans. Donc, elle n'avait pas les moyens. Moi, j'étais en invalidité avec un dossier adulte handicapé en cours.
Et donc, ça, Alexandra, votre maladie à vous, elle datait de combien de temps avant? Quand êtes-vous tombée malade?
J'ai des problèmes de santé déjà depuis toute petite.
Ah.
Et j'ai depuis l'adolescence, je vois beaucoup de médecins, je fais beaucoup d'examens, il y a eu j'ai au niveau du système nerveux autonome, j'ai un dérèglement.
Oui.
Bon, ben, ça c'était loin de trouver. J'ai eu beaucoup de « vous êtes folle, c'est dans votre tête, c'est psychosomatique ». On m'a beaucoup sorti ce genre de choses, mais moi, mon fond intérieur, je savais que c'était faux.
Oui, vous faisiez la différence entre des troubles psychiques et des troubles neurologiques.
Et puis, Puis je me suis penchée sur la question, parce que j'ai eu des maltraitances quand j'étais toute petite, donc ça a créé un...
Des maltraitances de la part de qui ?
De mon père.
Oui.
Jusqu'à l'âge de 7 ans.
Oui.
J'ai trois frères qui sont plus âgés. Et puis, il était alcoolique et violent aussi. Mais quand j'ai eu 6 ans, ma maman est partie pour nous protéger. Mais sur le moment, elle n'a pas su tout ce qui s'était passé, quoi.
Oui.
Je gardais le silence parce qu'il menaçait de la tuer. Et il avait des fusils. Il savait s'en servir puisque c'était un chasseur.
Ah oui, c'était des menaces, mais avec un côté oui, extrêmement dangereux.
Et je l'ai déjà vu, j'avais déjà vu courir après, la menacer, je savais de quoi il était capable. Donc, je n'ai rien dit et j'ai tout gardé. Puis, quand on est parti, je me suis permis de pleurer, mais sans expliquer pourquoi. Après, je ne me souviens plus de quand j'en ai parlé, mais... Je sais qu'à un moment, j'ai voulu aller voir un psy pour en parler quand j'avais 13 ans.
Et... Oui.
Mais ça n'a pas fonctionné.
Donc, vous avez rencontré quand même le psy ou c'est le...
Non, mais parce que la dame, elle souriait et elle ne me disait rien. Et moi, ça ne me convenait pas du tout.
Je crois que ça ne convient pas à grand monde d'être face à quelqu'un qui est silencieux et qui ne s'implique pas dans le lien.
Je me disais, il devait y avoir un statut de Jeanne d'Arc là où je vais. Autant aller parler à Jeanne d'Arc.
Oui.
ça serait pareil, mais bon, j'étais peut-être pas très gentille, mais...
Non, vous aviez parfaitement raison, c'est que je crois qu'on peut dire que l'esprit de la thérapie, c'est pas de laisser la personne qui parle face à sa solitude et à démêler elle-même ses nœuds, c'est vraiment d'entrer dans le lien avec elle et de l'accompagner. Puis même tout le temps, déjà une personne souffre, si en plus elle est confrontée à la solitude, au silence et à la froideur, c'est une épreuve de plus, ça peut pas marcher.
Ben, c'est vrai, ouais. Mais j'ai réessayé au plus tard, et puis finalement j'ai fait des petites dépressions, qui a été soignée à coup de Prozac.
Oui.
Ça a marché, ça allait mieux après. C'est vrai que j'ai vécu beaucoup d'épreuves. C'est vrai que...
Des épreuves dans votre vie amoureuse, si j'ai bien compris. Ça a été compliqué de ce point de vue.
Non, c'était pas le plus dur. Bon, ça a été un... En fait, j'ai fait une décompensation quand j'ai eu 31 ans. Et ça, c'était lié, oui, à ma relation amoureuse. Ça a
servi quand vous dites une décompensation, sur quel mode? Sur le mode de l'angoisse, de la dépression, de... quel genre de décompensation?
La dépression, l'angoisse... L'angoisse, hein. J'étais extrêmement mal, dans une souffrance terrible.
Oui.
J'avais déjà eu un suivi pendant 3 ans avec une psychologue et un psychiatre dans un centre pour jeunes.
Alors pour ceux qui nous écoutent, Alexandra va expliquer ce que c'est qu'une décompensation. Donc,
Une dépression comme un météo.
Oui, alors ça, la décompensation, ça peut être sur plusieurs modes, en fait. On considère que...
Là, ça s'est effondré, mon psychisme s'est effondré. Je n'étais plus capable de travailler, je n'étais plus capable de vivre, je pleurais tout le temps.
C'est ça, un équilibre s'est effondré.
Ah oui, totalement. Oui. Je me suis totalement effondrée parce que j'avais cet homme dans ma vie dont j'étais éperdument amoureuse et qui ne pouvait pas être libre, qui a choisi de ne pas l'être. Il était marié.
Oui.
Moi, je croyais au prince charmant. Je croyais à un homme qui pourrait me sauver, me guérir de toutes les souffrances que j'avais eues. Et le travail que j'avais fait sur moi n'était peut-être pas encore assez avancé pour comprendre que ça marchait pas comme ça.
Oui, vous avez raison.
Et quand j'ai compris, ça a été terrible. Et j'ai eu d'autres déceptions au niveau du travail et tout ça a fait que voilà. Et bon, il a fallu faire un travail sur moi-même et ça a été dur d'avoir un diagnostic.
Oui.
Et ça a été dur d'avoir des outils.
Il y a eu un diagnostic.
Oui, des troubles de la personnalité limite.
Et oui, c'est ce qu'on appelle les états limites. Bon.
Oui, ouais, entre l'état névrotique et psychotique, oui.
Oui,
Oui,
c'est ça. Bon, pour ça, là aussi, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a une discussion entre les psychanalystes ou les thérapeutes sur les états limites. Effectivement, quand on fait un diagnostic psychique, on essaie de savoir selon quelle structure est organisé le psychisme. Les grandes structures, c'est la névrose, la psychose, la perversion. Et il existe une catégorie qui a été théorisée, donc d'état limite. Alors, certains disent que les états limites n'existent pas et qu'on diagnostique l'état limite quand on ne sait pas faire un diagnostic différentiel entre la psychose et la névrose. Et pour d'autres, les états limites, c'est une catégorie à part. Mais en tout cas, sur vous, donc, on a posé ce diagnostic. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des épisodes de délire ou des choses comme ça?
Alors, moi, je dirais que il y avait une énorme anxiété.
Oui.
Et que ça donnait un peu des épisodes dissociatifs.
D'accord.
Je n'ai jamais fait vraiment de psychose délire, sauf quand une fois, on m'a voulu me donner un neuroleptique.
Oui.
Parce que j'avais des pensées suicidaires.
Oui.
Et là, j'ai eu vraiment un état, j'ai su ce que c'était, quoi.
Donc, c'est plutôt, normalement, le neuroleptique, c'est censé soigner le délire, et vous avez...
J'ai eu une réaction, je ne sais plus quel est le terme.
Paradoxal.
Voilà, complètement, et en plus, physiquement aussi, j'avais de la fièvre et tout, on m'a dit d'arrêter en urgence, et ça a été une très mauvaise expérience. Et malheureusement, j'ai eu des... Dans les soins qui m'ont été apportés, j'ai eu une maltraitance.
Oui.
Et ça m'a énormément traumatisée. Et j'ai continué malgré tout à faire un travail toute seule parce que j'ai découvert la méditation de pleine conscience.
Oui.
J'ai fait des lectures.
Oui.
Ça m'a énormément aidée. Je remercierai jamais assez, comment il s'appelle, Christophe André.
Ah oui.
Oui. Ah oui, vraiment c'est... Oui, ouais,
c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit et qui effectivement oui. Accompagne aussi des pratiques de méditation ouais. Pleine conscience. Oui.
Et j'ai pu échanger quelques mails avec lui et que vraiment un homme très gentil et très à l'écoute des autres. Ça m'a beaucoup aidée. Et puis ses amis Mathieu Ricard ou Alexandre Amas, j'ai oublié son nom.
Oui.
Vous devez voir de qui je parle.
Alors là, non, Christophe André, je vois bien, mais la personne... Oui,
le philosophe suisse qui a un handicap psychomoteur à cause de suite à sa naissance.
Et là, en fait, quand vous dites que vous cherchez une boussole aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin maintenant, Alexandra? Parce que j'ai le sentiment que vous êtes que dans la méditation pleine conscience, vous trouvez une forme d'orientation. Donc vous êtes à l'abri de la maltraitance, vous prenez la main sur des pratiques qui peuvent vous apaiser, vous recentrer.
Oui, oui,
donc de quoi avez-vous besoin?
J'ai eu de la sophrologie aussi, ça m'a beaucoup aidée.
Oui.
Et pour essayer de faire court, en fait, au moment à peu près où ma maman est tombée gravement malade, sur le chemin de la guérison, j'étais, disons, à peut-être 80-90%, quoi. J'étais vraiment... je n'avais pratiquement plus de symptômes.
Oui.
C'était surtout plus de l'anxiété. J'étais... Je ne me faisais plus de mal, je ne faisais plus de tentatives de suicide, ça s'était parti, j'étais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
Oui.
Et c'est vrai qu'avec ce qui est arrivé ensuite, ensuite j'ai eu des problèmes de santé somatiques qui se sont déclarés
oui.
Il y a 7 ans, 8 ans. Et là, il n'y a pas eu vraiment de diagnostic. On parle de maladie rare, c'est vraiment compliqué. Et quand ma maman est tombée malade, ben j'ai mis tout ça de côté. Et donc, je prenais plus soin de moi, quoi, en fait.
Oui. Dans ce que vous dites, puisque vous parliez de boussole, Alexandra, j'ai l'impression que vous aviez trouvé une boussole dans cette pratique de méditation en pleine conscience qui, quand elle est suivie avec une certaine discipline, une certaine persévérance, c'est quelque chose de puissant qui peut vraiment être facteur de guérison. J'ai l'impression que ça vous orientait et ça vous tenait, c'est quelque chose qui vous allait bien dans cette pratique-là.
Oui, mais c'est vrai qu'après, ben, du coup, j'ai lâché tout ça, puisque... À cause de mes problèmes de santé, quand même suffisamment graves pour qu'aujourd'hui je me déplace avec un déambulatoire. L'énergie que j'avais, c'était pour m'occuper de ma maman,
oui.
Qui à cause de tout, en plus ses traitements de cortisone a pris énormément de poids, donc physiquement c'était dur de relever quelqu'un qui avait pris énormément de poids, qui j'ai vu c'était douloureux de voir sa maman souffrir comme ça. Puis
bien sûr.
Covid. Premier mois, j'ai bien tenu et à partir du deuxième mois, j'ai commencé à aller moins bien, quoi.
Aujourd'hui, Alexandra, ce qui me paraît sûr, c'est que vous avez besoin de rapatrier toute l'énergie que vous avez mise dans le soin à votre maman. Vous avez besoin de la rapatrier pour vous. Ça me semble vraiment une priorité. Donc si la méditation vous permet de rapatrier cette énergie de façon focalisée, canalisée, ça me semble un excellent axe. En tout cas, c'est rapatrier vos forces vitales pour vous, parce qu'elles ont été beaucoup tournées vers le soutien à votre mère, qui peut produire une guérison morale. Donc je crois que là, si vous pouvez reprendre cet axe qui était le vôtre, celui de la méditation, si vous avez une confiance dans les pratiques et dans Christophe André, ça me paraît très bien de reprendre ça maintenant.
Oui, c'est vrai que c'est une idée judicieuse, mais
oui.
Ce que je voulais savoir, surtout, c'est que donc ça fait un an, il y a eu... tous les jalons, les dates anniversaires. Et donc, là, pour arriver à la date anniversaire des 1 an, et ça a été très difficile à passer. En plus, j'ai dû arrêter de fumer parce que financièrement, il fallait que je puisse m'assumer, quoi. Donc, tout ça, et bon, évidemment, elle me manque énormément, c'est très dur. Mais j'ai l'impression que malgré tout, je ne m'en sors pas trop mal. Mais est-ce que je m'en sors vraiment pas trop mal ou pas? C'est la question que je me pose.
Oui, bien sûr que vous vous en sortez pas trop mal, pour la simple raison que vous êtes debout et que vous avez envie d'aller mieux. Sinon, vous ne nous appelleriez pas et vous ne poseriez pas cette question. Donc, je pense que ce qui est très rassurant dans ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas submergé par le deuil au point de dire que votre vie n'a pas de sens et que votre personne n'a pas d'importance. Je pense que le deuil, étant donné la proximité que vous aviez avec votre maman et la façon et le côté dramatique de sa fin de vie, je crois que ça ne va pas s'estomper comme ça. Mais je pense que ce qu'on peut faire, ce n'est pas arrêter le deuil ou le faire disparaître, c'est faire en sorte que quelque chose devienne plus fortement investi. Et cette chose plus fortement investie, c'est le soin à vous-même et la reprise de cette pratique qui semble vous aller bien et dans laquelle on peut vraiment trouver beaucoup de ressources quand elle nous convient. Donc je pense que pour l'instant, on ne peut pas attendre que votre deuil disparaisse, mais je crois que c'est vraiment en pariant sur cette ressource-là qu'il pourra s'estomper et devenir moins douloureux.
Mais par exemple, le fait que je n'ai pas encore pu m'occuper de toutes ces affaires, parce que...
Je pense que ça viendra. Mais la première chose à faire, c'est de vous remettre, de rapatrier vos forces vitales et de retrouver cette énergie de vie que vous pouvez mettre ensuite au service de vos projets. Je pense que c'est vraiment la priorité. Donc vraiment, je vous inviterai à vous concentrer dans cette voie de la méditation suffisamment longtemps, vous le savez, il faut pratiquer un peu pour qu'il y ait des résultats. Et ensuite, vous verrez pour les choses pratiques. En tout cas, Alexandra, n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles. Vous l'avez fait il y a 1 an, n'hésitez pas à le faire. Je vous invite vraiment à vous plonger dans cette pratique, puis n'hésitez pas à nous dire si ça vous apporte un mieux.
Mais excusez-moi, juste une dernière question, mais le fait de culpabiliser un peu, c'est normal dans le processus?
En fait, le fait de culpabiliser, c'est de retourner quelque chose contre soi dans le deuil. C'est-à-dire, comme on ne peut pas être en colère contre la personne de nous avoir abandonné ou nous avoir fait vivre une épreuve, nous retournons cette colère contre nous sous forme de culpabilité. Donc ça se retourne dans l'autre sens. Ça, c'est un processus tout à fait normal. Et je pense que sa culpabilité s'estompera avec l'augmentation de vos ressources vitales, telles qu'on le disait là, donc par la méditation. Donc vraiment, courage à vous Alexandra, vraiment je vous recommande à persévérer et n'hésitez pas à nous dire si ça vous soulage.
Oui, d'accord.
Bon courage à vous.
Sabine Calégari sur RTL, parlons-nous. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce dernier quart d'heure ensemble. C'est Parlons-nous, votre espace pour parler de vous, chercher à mieux vous comprendre vous-même, à trouver des solutions ou aider d'autres personnes par l'expérience que vous avez vécue. Alors pour nous appeler, c'est au 09 69 39 10 11, en direct ou par répondeur. Bonsoir Samy.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Samy, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends bien.
Voilà, je vous entends également très bien. De quoi souhaitez-vous nous parler ?
Écoutez, il m'est arrivé quelque chose ces derniers temps. J'ai fait la rencontre d'une personne.
Oui.
Par un site de rencontre.
Oui.
Cette personne, j'ai hésité un petit peu parce que c'est une relation... Enfin, ça s'avérait être une relation à distance. J'habite à 400 km de mon domicile.
Oui.
Donc, ce n'est pas évident. Donc, j'avais toujours ça en tête. Mais bon, je me suis dit... Allons-y. Donc, je me suis rendu à plusieurs reprises à dans la ville là où il résidait.
Oui.
Et donc, voilà, ça s'est passé en un mois. Enfin, cette personne, je l'ai rencontrée il y a 2-3 mois maintenant de cela. le premier mois été, donc j'ai fait les allers-retours et puis c'est un matché comme disent les jeunes.
Oui.
Et puis un jour, pour organiser une montée un week-end, je me suis aperçu en fait qu'il était un petit peu réticent. Bon, bref, je me suis dit, bon, peut-être, au bout d'un mois, c'est quand même assez bizarre. Et donc, mais j'ai eu un doute. Donc, je me suis dit, parce que comme je disais à votre collaboratrice, pour le premier, la première personne qui est intervenue à l'antenne, Julien,
oui.
En fait, j'avais des doutes. Et donc, j'ai recréé un faux compte, en fait, pour enlever
s'il
ces doutes-là.
S'il allait se reconnecter.
Et là, exactement. Et donc, mais la problématique, c'est pas ça, parce que finalement, on se devait rien. Et puis, c'est juste qu'en fait, il y a quelque chose qui m'a perturbé dans cette relation-là. C'est que, il a perdu son papa il y a, ça doit faire 3 semaines maintenant.
Mm-hmm.
Mais, quand j'ai créé ce faux compte, en fait, il venait juste de perdre son papa. Et en fait, ce qui me trouble le plus, c'est le fait de m'être fait trahi en fait, ou le fait de savoir que des personnes, on peut pas perdre plus proche que soi, que ça, pour le coup, c'est le proche, c'est la chair de sa chair aussi, et me dire que le jour même ou la veille, le lendemain, aller sur un site de rencontre et puis essayer de... Enfin voilà, ça m'a perturbé et du coup voilà, je me suis dit ce soir il faut que j'ai un conseil parce que ça fait plus de 4 semaines maintenant que c'est comme ça et j'arrive pas à avancer et à faire un. Alors pour le coup, lui fait un deuil de son papa, mais moi je sais pas si je dois faire un deuil de ma relation, si je dois avoir des explications plus que cela avec lui. Donc voilà.
Vous savez, dans ce que vous dites, donc vous faites l'hypothèse d'une corrélation entre le deuil de son père et le fait qu'il se soit connecté sur le site. Cette corrélation, elle me paraît un peu hasardeuse, parce qu'il ne me paraît pas sûr du tout qu'il y ait un rapport entre les deux. Vous voyez, d'évidence, le deuil chez votre ami, c'est quelque chose de douloureux, mais face à un deuil, toutes sortes de réactions sont possibles. Quand on est en deuil, on peut au contraire se tourner vers la relation que nous avons dans notre vie et s'en rapprocher plus encore. On peut s'enfermer dans le silence, on peut entrer dans toutes sortes de conduites qui servent à nous étourdir. Enfin, tout et son contraire existe parce que c'est la singularité de chacun. Donc, pour moi, ça me paraît hasardeux que vous connectiez d'emblée, que vous corréliez d'emblée la question du deuil et la question de l'infidélité, ou en tout cas du début d'infidélité, parce que vous ne savez pas si, se connectant sur ce site, il a fait une autre rencontre.
Ben, en fait, j'ai essayé d'aller de l'amener sur ce sujet-là, parce que donc j'ai été très j'ai la chance dans ma famille, enfin, de ne pas avoir connu le deuil en fait, donc je sais pas réellement, donc on peut jamais pas se mettre à la place de l'autre personne, donc j'ai été quelqu'un, enfin je lui ai dit tout ce qui pouvait être possible d'attention, de soutien, enfin avant que je sache ça, sauf que quand je l'ai su après, donc et que j'ai joué ce faux profil-là, il a discuté avec moi et puis c'est très, voilà, c'était comme si c'était une nouvelle personne et que moi je n'existais pas. Et donc quand on s'est eu au téléphone 2-3 jours après, je l'ai essayé de l'amener sur ce sujet-là, il l'a nié. Et quelques jours après, on s'est retéléphoné et puis là, il m'a donné des explications plus ou moins hasardeuses.
Oui.
Mais bon, voilà, parce que le fait était là, je ne pouvais pas mentir en disant non, c'était pas moi, si, parce que j'ai découvert cette photo, donc j'attendais la photo à savoir si c'était bien lui, parce que j'étais pas sûr réellement si c'était lui. Et j'ai eu sa photo et voilà.
Vous lui avez dit que vous avez fait un faux compte et que vous l'avez.
Ah oui, je lui ai expliqué.
D'accord.
Oui,
d'accord.
Oui, je lui ai expliqué, effectivement. Il m'a retourné en me disant que je le suivais, que j'avais pas confiance en lui. Je lui ai dit que le fait était là.
Donc, oui.
Donc voilà. Et puis d'autant plus que, étant donné qu'il a perdu son papa, je comprenais pas trop en fait. Et en fait, la raison de mon appel ce soir, c'est ça, c'est comment avoir un comportement. Enfin, moi, tu parles de moi là pour le coup, avoir un comportement décent avec une personne qui est en deuil, sans l'accabler, parce que là, on mélange deuil, comme vous le disiez à l'instant, deuil et infidélité. Ouf. Et en fait, c'est ça, c'est là où j'arrive pas à gérer. Donc, comme je disais à votre collaboratrice, j'ai même décidé à appeler un centre médical psychologique. Je crois que c'est cela. Ça faisait des moments d'un.
CMP, c'est ça, un centre.
Un CMP, oui, effectivement.
C'est ça.
Alors. Pas pour ne parler que de cela, parce qu'il y a d'autres sujets, et c'est pas le lieu ce soir, mais je me suis dit, là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et en fait, j'ai plus confiance. En fait, le problème, ma problématique, c'est que accorder ma confiance, en fait. Et c'est ça, en fait, parce que je me dis que sur un moment très douloureux comme ça, ne plus arriver à faire confiance à une personne qui vient de perdre quelqu'un de cher en y mêlant l'infidélité. Enfin, moi, ça me trouble. J'ai 41 ans maintenant. Et bon, cette personne est plus jeune que moi. On a 15 ans de différence. Mmh. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous appelle ce soir pour avoir.
Pour essayer de démêler les fils ensemble.
Exactement. Surtout pour avoir le comportement adéquat à faire, parce que finalement, je tiens à cette personne et je me dis, même moi, je me culpabilise en ayant été trop. Peut-être trop franc au final et trop brusque, je ne sais pas.
En tout cas, lui, Samy, lui, à aucun moment, n'a dit que son comportement était lié au deuil. Lui, il n'a pas fait le lien entre les deux.
Non.
Donc, moi, je pense que puisqu'il n'a pas fait le lien entre les deux, je pense qu'il vaut mieux écarter cette corrélation de votre esprit. Peut-être que vous avez une sensibilité particulière à la question du deuil, une empathie particulière. Peut-être qu'il y a des choses dans votre histoire. En tout cas, je pense que ça, c'est votre association d'idées. Dès lors que lui n'a pas dit, et ça aurait été facile en fait de s'appuyer sur cette excuse, dès lors que lui n'a pas dit « écoute, c'est le deuil, j'ai perdu pied, ça m'amène à des conduites que j'ai pas habituellement », lui, il n'a pas du tout dit ça, il n'a pas corrélé les deux. Donc dès lors qu'il ne le fait pas, je pense qu'il vaut mieux que vous ne le fassiez pas, parce que ça complique les choses, vous voyez ? Donc je pense qu'il s'agit de bien séparer les deux questions, donc bien sûr de vous conduire avec une certaine douceur, avec quelqu'un qui est en deuil, enfin de tenir compte du fait qu'il est en deuil, c'est très bien au sens où il n'y a pas des décisions violentes à prendre, vous pouvez les prendre dans le dialogue, vous n'êtes pas à quelques jours près. Donc ça me semble s'arrêter là, vous voyez, vous savez qu'il est en deuil, vous gardez une forme de délicatesse, de douceur, vous précipitez rien. Mais je crois que la vraie question, c'est que ça fait, vous m'avez dit, 2 mois que vous êtes ensemble, vous ne vous connaissez pas très bien au fond sur la façon dont vous concevez l'existence, la façon dont vous concevez le couple. Donc moi je pense que c'est ça la question, c'est de lui dire, écoute, nous venons de traverser de sérieuses turbulences, j'ai senti une prise de distance de ta part, à un moment où on devait se retrouver, c'était pas fluide, c'était pas enthousiaste, ça m'a amené à avoir des doutes, ça m'a amené à des vérifications, on peut discuter sur le bien fondé de le faire de cette manière, mais en tout cas, il y a des turbulences dans notre couple. Moi, j'ai besoin de savoir à quelle place tu me mets dans ta vie, ce que tu désires pour nous, comment tu vois les choses.
Oui, on en a discuté un petit peu et je pensais que au niveau de l'exclusivité, c'est ce dont, donc c'est pour ça que j'ai été surpris déjà de le continuer à le voir sur un réseau social. Il aurait pu me dire la même chose de mon côté, hein, mais on en a discuté et c'est vrai qu'on apprenait à se connaître. Donc voilà, et puis il est arrivé ce drame de son côté, et puis mais ça a été entremêlé de cette problématique là et en fait pour même si on se connaît pas assez, ça c'est sûr, enfin voilà, ça m'a réellement perturbé, hein, ça me perturbe encore, et donc je pense qu'on a échangé souvent par message SMS interposé. Je vous avouerai que ça a été parfois un petit peu houleux parce que il a essayé de se justifier tant bien que mal, mais ça ne m'a pas concernant en fait bien évidemment la tromperie, si je puis. Enfin, après, je ne sais pas où on met les limites où commencent les limites de chacun au niveau de la tromperie.
Enfin, il semblait envisager une relation avec quelqu'un d'autre en tout cas. Enfin, et puis surtout, je crois qu'on n'est peut-être pas là pour légiférer sur la tromperie, mais vous, ça vous va pas.
Non, non, c'est sûr, c'est pas. Oui, voilà. Mais en fait, ce qui me pose problème pour moi, c'est qu'il y a le deuil. Donc, vous m'avez bien expliqué à l'instant que, en fait, ce sont deux choses différentes qui sont arrivées à un moment, certes.
Concomitamment, mais lui ne les associe pas. Donc, il n'y a pas de raison que vous les associez à sa place.
D'accord. Donc, parce qu'en fait, moi, ça me donne, au final, plus envie. Enfin, j'ai un âge qui est un peu avancé. Donc, certes, il est jeune. Mais je me dis que moi, ça me donne pas encore confiance réellement. Enfin, je me dis, j'ai une amie qui m'a expliqué que le deuil, chacun le vivait différemment. C'est ce que vous venez de m'expliquer également aussi. Mais c'est vrai que pour moi, en ayant cet esprit-là, je veux pas me mettre à la place de lui, mais je n'espère à personne de traverser un deuil. Je n'ai pas traversé moi-même, donc je ne peux pas me mettre à sa place. Mais pour moi, je n'arrive pas à concevoir à ce qu'on puisse mêler les deux entre sexualité et deuil. Pour moi, il y a ces deux choses qui ne vont pas ensemble, quoi. Et je ne sais pas. C'est pour ça.
En fait, Samy, je veux peut-être vous inviter à ne pas faire vos propres projections, parce que si je comprends tout à fait ce que vous dites, et on est certainement nombreux à partager votre point de vue, que c'est pas forcément dans un moment de deuil qu'on va se lancer dans des rencontres sexuelles, mais ça, c'est simplement votre idée à vous et vos projections à vous. Vous ne savez pas du tout s'il y a un lien entre les deux, entre sa connexion et le deuil. Lui ne le fait pas, donc on peut plutôt penser que non. Moi, je crois que la vraie question, c'est celle de la relation que vous avez commencée ensemble. De quoi est-elle faite et où va-t-elle ? Vous avez déjà à peine 2 mois de relation et il y a déjà un accident de parcours qui vous donne l'idée que vous ne pouvez peut-être pas lui faire confiance. Peut-être, alors soit vous êtes prêt à rompre et vous vous dites que ce n'est pas quelqu'un qui partage votre souhait de vous stabiliser dans une relation amoureuse, soit vous vous dites que vous donnez un certain temps pour voir, et en étant attentif aux signes d'engagement qu'il va vous donner, à la qualité d'amour que vous recevez, va vous faire votre propre opinion à partir de ce que vous pouvez vivre.
Exactement, en fait, c'est pas la décision, mais je veux dire, c'est en me retrouvant avec moi-même, je me suis dit, laissons passer le temps, parce que le temps a pour habitude de faire ou de pas faire les choses, et de le laisser revenir, et puis d'avoir réellement, voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de ses ressentis vis-à-vis de ma personne, et puis. Je sais pas, parce que je suis très troublé pour le coup, donc je pense que c'est la décision que j'ai prise de laisser de côté, de laisser venir, parce qu'il m'a expliqué qu'en fait il avait la tête, il sait pas s'il veut être avec du monde, s'il veut rester seul, j'imagine bien comme ça peut être difficile la position de quelqu'un d'endeuillé. Mais je ne veux pas interférer là-dedans, d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que
Par rapport au deuil, je crois que la question est très simple. C'est qu'est-ce que tu attends de moi pour t'aider ? C'est tout. Je crois, sans y projeter quoi que ce soit, sans corréler quoi que ce soit, je pense que le mieux que nous puissions faire pour quelqu'un qui est en deuil, en ne sachant pas comment lui vit la chose, c'est de lui dire, de montrer une délicatesse, une disponibilité, en disant « je sais que tu traverses une épreuve difficile, qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que je peux faire pour t'adoucir les choses ?» Je crois que c'est juste ça.
C'est ce que j'ai fait au tout début, et c'est vrai qu'il y a eu cette histoire qui est arrivée au milieu, mais en relisant les messages, c'est vrai que je m'en suis excusé pour avoir été un petit peu, parce que en fait, c'est pas que j'avais l'impression, mais c'est que je l'ai accablé en plus par rapport à cette faute-là, et donc, donc je me suis dit, je lui ai proposé mon aide, je lui ai dit que j'étais disponible, et puis voilà.
Même là, vous voyez, par rapport à cette question. Quand je vous invite à pas corréler les deux, c'est de séparer la question du deuil et de l'histoire d'amour. C'est que votre histoire d'amour, là, il y a de sérieuses questions sur elle. Le deuil, il suffit de lui dire que c'est la délicatesse, le tact, l'humanité, que vous êtes dans l'intention de faire ce que vous pouvez pour lui, pour l'aider, vous pouvez parler, ce qui sous-entend que si votre relation d'amour ne tient pas, vous pouvez avoir des signes amicaux envers lui. Mais je pense qu'en revanche, la question de l'histoire d'amour, elle est bien à part. C'est effectivement, est-ce que vous êtes simplement compatible? C'est-à-dire que, est-ce que vous attendez la même chose d'un couple en général, de votre lien en particulier? Est-ce qu'il y a une compatibilité émotionnelle, affective, amoureuse entre vous?
En tout cas, moi, je pense être... être amoureux, lui prend plus son temps, donc ça c'était comme ça depuis le début. Mais bon, c'est vrai que c'est des discussions que, enfin, j'avais pas envie non plus de mettre trop la pression parce que, enfin voilà, d'autant plus qu'il y a une certaine distance. Vous savez, 400 km, c'est difficile de voir une personne tous les jours. Il y a le travail, il y a plein de choses, donc c'est vrai que on essayait de s'organiser. Bon, jusqu'à ce qu'il arrive ce drame-là pour lui. Donc voilà, mais vous avez raison au final. Je pense que je fais la corrélation des deux alors qu'il faudrait pas la faire et bien séparer les choses.
C'est ça. Et en fait, être attentif, là, je pense que, puisque vous semblez, dans ce que vous dites, vous n'êtes pas pressé de rompre, c'est simplement être attentif à ce que vous allez ressentir, voir si cet homme a du répondant du côté du sentiment amoureux, du soin qu'il peut prendre de vous, de son envie de construire quelque chose. Et ça, c'est vraiment une expérience très émotionnelle. Vous allez très bien le sentir si vous vous sentez bien ou pas.
Oui, oui.
Voilà, Samy, à nous, comme avec les autres personnes qui ont témoigné, n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles. On est heureux quand les personnes le font. C'est toujours aussi enseignant pour ceux qui nous écoutent de connaître la dynamique des choses. Donc n'hésitez pas à nous rappeler.
Très bien, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir reçu à l'antenne.
Avec plaisir, et vraiment, je vous souhaite que les choses aillent dans le sens que vous souhaitez.
Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas.
Bonne soirée à vous, Samy. Et sur ce témoignage de Samy, donc nous allons nous quitter pour ce soir en remerciant aussi Julien, Jean-Marc, Alexandra. Et pour ma part, je vous retrouve lundi en direct dès 22h. Le numéro de Parlons-nous est au 09 69 39 10 11, toujours ouvert, y compris sur répondeur, même le week-end. Alors n'hésitez pas, quand votre question vous vient à l'esprit, quelle qu'elle soit, vous pouvez simplement nous la poser. Je vous souhaite un très beau week-end.